Voix enchantées, l'émission qui donne la voix à de jeunes écrivains amateurs passionnés par l'art et sensibles à la beauté. Une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Elias, qui après avoir fait un double master en sciences politiques et en mathématiques appliquées, fait maintenant de la programmation informatique. C'est bien ça, Elias ?
Ouais, c'est ça. Depuis 6 mois, je suis développeur freelance. Je travaille sur du web, des projets de jeux vidéo et autres.
Choix de l'artiste. Comme chaque mois, l'émission commence par le choix d'un artiste qui touche particulièrement notre invité, sans limite dans le temps ou dans l'espace. Elias, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de Vald. C'est un rappeur français contemporain de la région parisienne. J'ai écouté la plupart de ses albums, je l'ai vu en concert. Et en fait, je vous parle de lui parce que je pense que c'est un des artistes que je connais bien, dans le sens où je me suis intéressé à lui, j'ai regardé des interviews de lui. Il touche, dans ses chansons, il touche à beaucoup de thèmes. Par exemple, il touche au thème de l'irréel. Enfin, il parle parfois des hommes lézards, de Agartha, le monde souterrain, des choses un peu délirantes. Mais en fait, j'ai un thème qui me touche plus dans ses chansons, dans ses albums, c'est le thème du mal-être. Il transparaît même jusque dans ses interviews, parce qu'il est dans le malaise dans ses interviews, quoi. Il dit qu'il s'en fout un peu de tout, mais en fait, il est pas bien quand il y est. En fait, ça se voit qu'il préférait être chez lui, et qu'il sait pas trop comment se comporter, donc du coup, il en fait trop, et je trouve ça touchant.
Et donc toi, tu t'identifies un peu à ce personnage, parce que c'est un personnage public, en fait.
Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que je m'identifie dans un mal-être qu'on peut ressentir dans certaines situations, cette espèce de besoin un peu épidermique de faire, d'accéder plutôt à un personnage plutôt qu'à ce qu'on voudrait vraiment dire, une situation de bien-être.
C'est peut-être ne pas s'assumer comme on est et devoir jouer un rôle dans la société pour essayer de plaire.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est un thème qui transparaît et on le ressent vraiment. C'est fort.
Et donc c'est presque à travers ce jeu de rôle que tu ressens sa sincérité, malgré lui peut-être.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant.
Et si tu devais penser à une chanson, un texte de rap de Vald qui te touche particulièrement ou qui est la plus représentative de son art et de sa personnalité en tant que rappeur, tu prendrais laquelle ?
Je sais pas exactement si c'est celle qui la représente le mieux, mais ma préférée, elle s'appelle Réflexion Basse.
Si mes désirs changent, faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer. Même moi je me regarde et je viens pas m'aider. Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est VALD ? C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités, que je pose des questions sans grande utilité. Mais quand je me déteste, c'est pas de l'humilité. Non, c'est que mes démons se sont multipliés. Je suis mal dans ma peau comme un ado boutonneux. Ça va rien changer, ma gueule sous la couronne. Je fais du rap par corps, je fais pas la coupole. Je coupe la vodka au sous-mol.
C'est une chanson où il se parle un peu à lui-même. Il se pose des questions en broyant du noir. Le thème de la chanson, c'est qu'il a un bar avec son pote. Celui qu'on blasadait, son meilleur ami. Et en fait, ils boivent et au fur et à mesure, à chaque couplet, en fait, ils sont de plus en plus bourrés. Et tu le sens un peu dans leur façon de s'exprimer, dans la rage un peu qu'ils ressentent. Et en fait, ils sont dégoûtés. Et leur dégoût, en fait, il est super touchant parce que c'est pas une chanson haineuse. T'en ressors pas en étant énervé. T'en ressens en étant touché et elle est super bien écrite, donc plutôt agréable.
Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours une couche en dessous de ce qui est exprimé au premier abord avec Vald.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il en blague un peu parce qu'en fait, ses fans plus hardcore essayent tout le temps de trouver des théories derrière ses paroles. Ils disent Vald, le génie a compris. Vald nous dit quelque chose et en fait, dans le sous-texte, quand on extrait les trois premières syllabes, ça fait ce mot-là et tout. Donc, lui, il en rigole parce que les gens vont trop loin en fait dans leur interprétation. Mais je pense que ce thème du génie de Vald incompris et des textes cachés, est né justement de la dualité entre le Vald qui est donné à voir en public et en fait, le Vald un peu privé qui transparaît dans les paroles et c'est ce Vald un peu gêné qui a du mal à s'assumer, comme tu disais.
Coup de cœur musical. Tu vas maintenant nous faire part de ton coup de cœur musical. Peux-tu nous annoncer le nom de l'artiste et le titre de la chanson ?
Henry, Remember Summer Days.
Mitsumete omoidasu.
J'ai découvert cette chanson en soirée par un pote. En fait, elle m'a beaucoup surprise parce que j'avais jamais entendu de la pop japonaise qui ait un côté jazz comme ça. J'ai regardé des animés, j'ai lu des mangas, et je m'intéresse beaucoup à la culture japonaise. Et même dans les génériques de mangas, j'avais jamais entendu des sonorités comme ça. Et donc, même si je comprends pas les paroles, elle m'a beaucoup touché cette chanson.
Et donc, dans les génériques de mangas, ce serait quoi le style musical ?
Souvent, je pense que c'est de la pop, c'est un peu popesque. C'est de la pop, mais plutôt rock. J'entends rarement des sonorités de jazz dans les mangas. Des trompettes, des saxophones, des choses qui tirent un peu sur le blues ou la culture nord-américaine.
Et donc là, avec cette chanson, t'as l'impression d'avoir découvert un nouveau style musical.
Disons que j'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Et ça m'a fait plaisir de le découvrir.
Et donc tu dis qu'elle te touche. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle t'évoque ?
C'est marrant, en fait, cette chanson, je trouve qu'elle évoque beaucoup d'émotions. Elle peut rendre joyeux, avoir envie de danser, et parfois triste et nostalgique. Et en fait, je la trouve super colorée. Je sais pas comment expliquer, quand j'écoute cette chanson et je ferme les yeux, je vois pas forcément des images précises, c'est plutôt flou, mais ça me fait penser à un ciel bleu ou une sorte de terrain vague avec des fleurs de cerise et des choses comme ça.
Donc c'est plus une atmosphère colorée que des souvenirs imagés concrets, quoi.
Exactement.
Partage de texte.
Elias, tu as accepté de nous lire un texte que tu as écrit. Peux-tu nous le contextualiser un petit peu, nous dire comment il est né ?
J'écris pas beaucoup, enfin j'écris jamais, mais depuis à peu près 7-8 mois, j'ai fini toutes mes études et je suis rentré dans la vie active. Et en fait, cette étape de transition, ça m'a mis un peu dans un état, vu que je suis freelance, je travaille tout seul de chez moi, et la situation du Covid, en fait, beaucoup d'éléments m'ont mis dans un état un peu introspectif, ou en tout cas de solitude, où on réfléchit beaucoup. En fait, entre ce moment-là et au moment où j'ai été convié à l'émission, bah, ça m'a donné une excuse un peu de mettre des mots sur des sujets auxquels j'ai pu réfléchir. Et quelque chose qui me tient à cœur, c'est la façon dont on se présente au monde. Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, j'aurais voulu vous dire des mots bleus, mais j'en suis un avec les mots. J'aurais voulu vous raconter une histoire pour que l'on rêve ensemble, que l'on puisse dire « on n'est pas sérieux quand on a 24 ans ». Je vais plutôt partager avec vous une épiphanie récente que j'ai eue. Ça tombe bien si proche du 6 janvier. Sachez toutefois que je n'ai pas la prétention de vous donner 12 leçons pour 2022 ou autre récit racoleur. Simplement voilà, j'ai réalisé récemment qu'en étant toujours lisse, on manque de fond et pas de forme. Parce que quelle forme on peut avoir quand on se fond dans le décor ? L'opposé de lisse n'est alors pas rugueux, cabossé ou bossu, mais le soi. L'opposé de lisse, c'est alors ne faire qu'un, tout court. C'est réclamer notre identité à notre désir de plaire qu'il avait kidnappé. Chers amis, je n'ai pas de résolution ou de bonnes leçons pour la prochaine année. Je veux simplement pouvoir ôter l'artifice et faire surgir le fond. Je voudrais dire sans rien y ajouter, je suis.
L'œuvre phare. Tableau, roman, film ou encore pièce de théâtre, de quelle œuvre vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de Éducation européenne, un roman de Romain Gary qui a été publié en 1944. Puis réédité en 1956. Et je connaissais pas Romain Gary avant, on m'avait souvent parlé de lui, j'avais jamais lu de ses romans. Et il y a moins d'un an, on m'a prêté La vie devant soi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a invité à mieux découvrir son univers. C'était super cru et c'était vraiment touchant. Et un ami m'a parlé d'un roman moins connu de lui, Éducation européenne. J'en ai profité pour le lire et c'est devenu un de mes livres préférés.
Je crois que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond. Ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux par son exclusion de tout le reste, monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman et la création littéraire, qui me rend tous les engagements, tous les autres engagements extrêmement difficiles et qui me donne un air absent. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité, je ne dis pas des femmes, je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde.
L'histoire parle d'un jeune Polonais qui a 14 ans, Janek, qui vit la Deuxième Guerre mondiale dans une forêt. En fait, il se cache, c'est en 42. La Pologne a déjà perdu depuis longtemps et elle est occupée, il vit près de Wilno qui est occupé par les nazis. Et en fait, il se cache dans la forêt, il va rejoindre une bande de rebelles qui sont dans le cours de la guerre complètement insignifiants parce qu'ils vivent en terrain occupé. Ça leur arrive d'attaquer la chaîne de ravitaillement nazi, mais en fait, au cours du livre, ils demandent qu'est-ce qui se passe sur les fronts parce qu'ils savent qu'en fait, ils doivent attendre. Donc il y a les thèmes de l'attente, les thèmes de la famine, du désespoir, de la mort et en fait, comment on survit à ça.
Et c'est aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux d'un adolescent.
C'est ça. un adolescent qui vieillit trop vite et qui commence par accéder à la guerre à travers la bouche des adultes. Les adultes la romancent. Et au fur et à mesure, en fait, il la vit, il grandit et très vite, il demande qu'on arrête d'essayer de romancer la guerre pour lui puisqu'il l'a vécu. En fait, on sent au cours du récit que son cœur se tend, qui se crispe et qui s'endurcit, et à la fois qui s'assèche. Et en fait, la façon dont au cours du livre, il continue à accéder au beau, c'est grâce à l'art. La musique, il rencontre un violoniste jeune enfant. À travers les romans, il a un de ses camarades rebelles qui écrit et qui leur raconte des histoires auprès du feu.
Donc il y a un lien entre la guerre qui est romancée et les histoires, les récits qui permettent de survivre à cette guerre.
C'est ça. Parce qu'au fur et à mesure, il va rencontrer une jeune fille de son âge qu'il aime profondément et ils vont s'aimer. Et en fait, à travers tous ces moments de... Enfin, en tout cas, de vrai, de réalité, en tout cas, désastreuse, il accède au beau et en fait, il survit. Mais en même temps, il meurt un peu tous les jours.
C'est aussi une réflexion sur jusqu'où on est prêt à aller pour défendre une cause en laquelle on croit.
Oui, je pense qu'il y a de ça. Parce qu'il y a une des phrases qui m'a vraiment marqué dans le récit. En fait, il me semble que c'est son père qui lui dit. Et il lui dit « Rien d'important ne meurt jamais ». Pendant toute une partie du récit, il comprend pas. Il dit « Mais non, c'est pas vrai. Enfin, par exemple, si mon père il meurt, bah, il est important, il est mort. Donc c'est impossible. Ça n'a pas de sens. » Et en fait, il me semble qu'au fur et à mesure où il accède à certaines choses qui le font un peu s'élever, en fait, qui lui font quitter la réalité, par exemple le violon ou les romans,
l'amour.
Et d'autres, l'amour, et ben en fait il comprend que, je pense que quand son père lui dit ça, il parle de ça en fait. Il dit l'espoir de la libération, les idées morales de la liberté contre la guerre, c'est ça qui meurt jamais. Et en fait les gens qui le défendent meurent, mais eux sont pas importants.
Souviens-toi.
Comme tous les mois, je demande à l'invité de partager avec nous une bribe de phrase entendue dans les transports, un café, un espace public quelconque. Autrement dit, un fragment de parole pris sur le vif qui l'aurait interloqué, surpris ou amusé. Elias, quelle est ta bribe de phrase ?
C'était le soir du 31 décembre. J'étais dans le métro pour aller chez un pote. J'avais mes écouteurs, j'étais un peu dans mon monde. Et je vois une dame qui s'approche dans la rame de la ligne 5, qui commence à parler, à s'adresser à la rame. Et bah, j'aime pas trop écouter ma musique quand quelqu'un parle. Mais là, ce jour-là, j'ai décidé de laisser ma musique 10-15 secondes, quoi, parce que j'avais envie de pas l'écouter. Et au bout d'un moment, je me pose. Et je me rends compte qu'elle s'adressait pas à la rame spécialement pour, comme on aurait pu penser, peut-être pour mendier ou autre chose. En fait, elle prêchait. Et donc, elle criait des choses sur Jésus-Christ et la chrétienté. D'un coup, je commence à être un peu interloqué, et là, elle crie « Jésus peut prendre toute votre colère de vos épaules !» Et il y a des gens qui ont rigolé. Moi, ça m'a fait forcément rire, mais j'étais juste sans mots. J'avais pas les mots. Je dis, mais ça n'a aucun sens.
Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables. Chez nous, une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde ». On était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau, bien sûr qu'à cela coule douce.
Merci beaucoup Elias d'avoir été la voix enchantée du jour.
Merci Louisa, merci à tous.
On se retrouve le mois prochain à 18h sur Radio Campus Paris.